ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli. Bonjour à vous et bienvenue dans cette émission d'octobre au cours de laquelle nous allons poursuivre notre exploration de l'œuvre du poète roumain Ilari Voronca. Nous avions évoqué en septembre la publication de ses premiers poèmes en Roumanie, puis son exil en France et ses publications en français. La dernière datant de 1936 et intitulée « La poésie commune ». Je vous ai déjà lu plusieurs poèmes issus de ce recueil qui, je le rappelle, marque un tournant dans l'œuvre de Voronca en ce qu'il cherche à promouvoir l'espoir en un monde nouveau, plus juste, plus fraternel. Un monde qui sans doute peut sembler d'autant plus accessible que le Front populaire qui arrive au gouvernement à cette époque-là en France incarne lui aussi un espoir de vie meilleure. Je voudrais poursuivre aujourd'hui avec plusieurs autres poèmes de la poésie commune avant d'aborder la suite de la vie et de l'œuvre d'Ilari Voronca. Et pour commencer, ce texte s'adressant aux hommes de l'avenir et qui a pour titre « J'étais des vôtres ». C'est vers vous, homme de l'avenir, que va ma pensée. Et je veux que vous vous exclamiez « Il était des nôtres » quand vous lirez mes poèmes. Des terrasses claires, un travail joyeux fait pour le bien de tous, et un amour immense, comme un fleuve qui mène vers la mer toutes les rivières, pour réunir les hommes et les peuples sous un même soleil. Tout est à vous maintenant, et les vallées, et les monts parmi lesquels les saisons distribuent leurs forces, et l'océan majestueux, et les aubes, et les couchants, dont seuls quelques-uns pouvaient dire auparavant « Vous êtes si beau ». Se souvient-on encore parmi vous des hommes de mon temps qui donnaient leurs yeux, leurs poumons pour un repas et un lit pauvre ? Leur vue s'en allait avec la fumée par les hautes cheminées des usines, leur souffle, leur jeunesse se transmuait en lumière et en cristaux éclatants. Oh, ils étaient tous loin, tristes, dans les ténèbres. Ils ne prenaient point part aux joies qu'ils avaient créées. Leur souffrance, leur agonie obscure, pareille aux huîtres dont on nourrit la mort pour en extraire des perles. Ces avenues somptueuses, ces jardins comme des coupes où le champagne le plus fin des confidences mousse, et les vitrines si attrayantes comme de vastes timbres-postes où tous les climats, toutes les vacances se rencontrent, n'ont-elles gardé nulle empreinte de ces mains âpres, douloureuses, des hommes qui n'ont droit à rien ? Je disais souvent ces paroles. Mais j'étais pareil à l'étranger qui parle au milieu d'une foule, une langue inconnue, car j'étais des vôtres, hommes de l'avenir. Et c'est vers vous qu'allait ma pensée, comme vers l'océan de la soif future, les chevaux blancs des sources et leurs crinières d'écume. Il y a toujours chez Voronca cette large vision du monde qui englobe les hommes et leur environnement. Le bonheur de l'homme étant déterminé par son lien à la nature qui lui permet de s'émerveiller. Ce lien transparaît dans le sens, bien sûr, mais aussi, et c'est bien la valeur poétique de ces textes, dans la forme, notamment dans les nombreuses images associant l'humain et la nature. En témoignent deux exemples dans ce dernier texte que vous venez d'entendre, qui ont rapport à l'eau, comme c'est très souvent le cas dans le style de Voronca. Une eau salvatrice qui purifie, une eau en mouvement, qui entraîne vers un ailleurs plus beau. Voici ces deux passages. Un amour immense, comme un fleuve qui mène vers la mer toutes les rivières. Et le second, c'est vers vous qu'allait ma pensée, comme vers l'océan de la soif future, les chevaux blancs des sources et leurs crinières d'écume. Je sont tous les autres. C'est le titre du poème qui vient. Au départ, c'est l'attente devant la porte fermée de l'hôpital où est opérée sa femme. C'est la visite qui lui est refusée, comme on refuse le bonheur aux hommes de son temps. Ainsi, l'expérience personnelle devient source de fraternité avec tous ceux qui luttent et entretiennent l'histoire d'un monde et entretiennent l'espoir d'un monde heureux. Je suis là, mais ma pensée est ailleurs. J'attends devant cette porte cadenassée, mais c'est un autre qui se tient là à ma place. Loin, très loin, les chalands amarrés, les navires prêts à partir, et cette armoire quelque part où le linge a une odeur de coin et d'automne. Il fait bon, oui, il fait bon rester ainsi aux fenêtres et voir le jour qui monte comme une plante neuve de la terre. Il y a les oiseaux qui essaient le vol, comme une forme plus pure, et cette course joyeuse de l'homme qui s'avance vers son destin. Oh, ne me demandez pas à quoi bon tout cela. Il y a encore des terrains vastes, il y a encore des maisons à bâtir et des hommes qui n'ont jamais mangé à leur faim et la vie et le soleil qu'on soupçonne parmi eux. Ce sont des paroles simples à la portée de tout le monde, pas même la peine de les chercher dans un dictionnaire. Le droit au repos, le droit au travail, se promener dans un beau parc lumineux, ouvrir une terrasse au grand air, un poème. Faut-il briser le cœur de l'homme comme la surface d'une rivière glacée pour trouver une onde claire? Je dis cela ou autre chose. J'attends devant cette porte, mais c'est un autre qui attend là à ma place. Mes mains, êtes-vous là? Et vous mes genoux? Et vous mes yeux? Qu'est-ce ce pays que vous voyez? Et ces visages que les mots isolent comme des grilles. Non, monsieur, les visites ne sont admises que le dimanche de 2 à 4 heures. Ma femme a été opérée ce matin, je veux la voir. Serrez les dents, amie, épouse chère. Non, je n'ai pas le droit de dire cette douleur à moi, à nous tous deux. Il y a d'autres douleurs plus grandes, ces prisons où meurent des hommes jeunes. Mais je sens les doigts du chirurgien qui fouille tes intestins. Dimanche. Que veut dire cela? Dimanche. Et quel jour sommes-nous au juste? Et ces routes qui passent par ma tête, comme des herbes emmêlées sous le vent, où mènent-elles? Et la pensée, qu'en faites-vous? Elle est là, à la porte de l'hôpital, elle se moque de vos dimanches. Je te vois, merveilleuse, résignée entre ses lits semblables, et les malades aussi, les plus pauvres. Courage, me disais-tu. Et la rue était là à la sortie, comme une meule pour broyer dans la foule mon image. Est-il un monde meilleur quelque part? Et un peuple jeune qui s'avance en chantant, sans armes, avec des instruments de travail, vers un autre peuple? Non, pas de guerre, disent-ils. Nous sommes venus pour construire ensemble des ponts et des ateliers clairs et des maisons de repos. À tout cela, je pense aussi. Et je suis partout en même temps, comme une nouvelle heureuse. Et toute chose m'est chère, car ce n'est pas moi qui marche et qui pense dans ces rues. C'est toi aussi. Et puis, des milliers et des milliers d'hommes comme nous.
Poate durrà, quando si nasce durrà, lume, sole lume.
C'est une voix roumaine que vous venez d'entendre, une voix que j'ai découverte il y a peu dans une émission de France Musique, la voix de Maria Tanase, née en 1913, 10 ans après Voronka, une chanteuse populaire dont on disait à l'époque que c'était la Piaf roumaine et qui évoquait dans ses chansons, comme Edith Piaf, la vie du peuple et ses souffrances. Cela lui valut d'ailleurs d'être censurée par le régime d'extrême droite qui arriva au pouvoir en Roumanie en 1940. Si Voronka entrevoit des lendemains plus heureux pour l'humanité, il voit d'un œil plutôt sombre son itinéraire personnel, celui d'un perpétuel errant qui est souvent hanté par la mort. C'est le climat que vous allez trouver dans les deux textes qui suivent et qui font partie eux aussi de la poésie commune, mais dans une tonalité plus sombre que les deux précédents. J'ai été vivant, comme vous, mes amis, et dans les jardins tristes, provinciaux, j'ai fait de longues confidences, et j'ai été aussi l'errant qui désire un toit familier et qui n'a pour vêtement que la lumière et la pluie. Oh, être votre compagnon, vous reconnaître une fois encore, ma vue pleine de choses de ce monde comme une eau très poissonneuse, et ce regard du mourant, bu par le visage, comme une rivière qui sèche. De ce promontoire, on aperçoit la mer, comme une fenêtre éclairée doucement, derrière laquelle, très tard, dans une nuit d'hiver, le poète cherche une aurore nouvelle parmi ses manuscrits. Mais cette transfusion lente vers l'immobilité, vers la mort, ces vases communiquant, la vie et la mort, dont je prends conscience, cette source qui est en nous dès notre naissance et qui ne jaillit qu'au moment même de notre mort, nous fera-t-elle enfin tout savoir? Ces couleurs et ce grand jour sans aube dont on s'approche. Le visage est ici, mais son contour est ailleurs. On peut s'en éloigner, on reste toujours proche. Tout cela appartient à un autre temps. Oh, mes amis, et cette porte où l'on frappe, et quand on l'ouvre, il n'apparaît personne. Oh, comme j'aurais voulu reconnaître celui qui était là sur le seuil, sans figure et sans voix, car j'étais vivant comme vous. Mais aujourd'hui, je suis celui-là même que vos yeux cherchent en vain, dans les ténèbres, par les portes béantes, entourés de grandes eaux comme des chiens invisibles dont on entend tout près le souffle qui halète. version encore terrestre d'un poème. Que puis-je emporter d'ici ? Rien n'est à moi. Une tristesse brusque, une porte qui s'ouvre. Mon esprit est déjà loin, mais mon visage plane encore au-dessus de cette chambre comme une toile que l'araignée abandonne. Par la vitre, on voit une maison qu'on est en train de bâtir. On entend des appels lointains et le bruit d'écume des briques qui montent. Les pièces ne sont pas encore finies, mais la mort, comme un feu très doux, attend déjà ceux qu'elle réchauffera. Ah, certes, je ne puis rien emporter. Ces larmes et ces rires, je les laisse là comme des outils dont d'autres auront besoin. Et ce chant du mendiant qui tremble à la fenêtre comme une pluie fine. Serais-je encore triste ? Serais-je encore heureux ? Rencontrerai-je ces fleurs qui se souviennent de leurs parfums anciens ? Et cette mère allongée sur le sable comme une femme amoureuse dont les genoux ont un goût de sel et d'herbe pourrie. Il y eut néanmoins des soirs si joyeux, sans raison, sans que l'on sût pourquoi ni comment, un fruit juteux et frais sur les lèvres, des ruines fastueuses et le cri lumineux de la cigale dans les saules. Quand le crépuscule fondait comme un vol de cigogne et nul bruit de la ville ne tourmentait le songe. Quelque part, il y avait ces vieillards qui apprenaient à mourir petit à petit comme l'on apprend à marcher dans les ténèbres. Oh, non, je ne puis rien emporter, ni ce souvenir du blé qui pousse et qui meurt pour ressusciter dans le fantôme blanc du pain, ni ce visage de l'aimé qui se penchait vers mon visage comme un nuage lourd de l'eau du ciel vers un puits lourd de l'eau sur la terre. Non, je ne puis rien emporter. Je m'en vais seule. Je laisse derrière moi ces maisons muettes et froides. Je ne puis rien emporter, pas même ce poème inachevé.
Și tu noaptea vin o tare să-mi ia frita la spinare pușca, să-mi ia frita la spinare ca să ies la drumul mare. Măi, ca la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale venite la mușa mare, să lovesc unde mi-l doare, să lovesc unde mi-l doare, măi. La casa sufletului, la casa sufletului, măi. Aolică, unde poți voinicului, măi? Unde poți voinicului, măi? Hai, duc, măi! M-a făcut, măi, că hai, duc, de unde e furnul, mai duc, mai de unde e furnul, mai duc? Că nu fur, mai de la toți, numai de la care poși. că fur de la ea bogați și-n părță la ei săraci, măi, și-n părță la ei săraci, măi.
Les deux extraits musicaux que vous venez d'entendre appartiennent à un album de musique tzigane roumaine, provenant plus précisément de la région qui s'appelle la Valachie, au sud de Bucarest. Les musiciens se groupent en formation à géométrie variable, nommée Taraf, et accompagnent les rites de la vie des villages essentiellement, car dans les villes, la tradition a tendance à disparaître. Ils jouent ainsi pour les naissances, les baptêmes, les enterrements, et surtout pour les mariages qui, chez les tziganes, durent 3 jours et 3 nuits. L'album en question s'appelle Taraf de Haïdouk. Le Haïdouk étant une grande figure héroïque de la ballade traditionnelle dans la Roumanie féodale, une sorte de bandit justicier qui symbolise la justice sociale et finit toujours, grâce à sa débrouillardise, par rouler le seigneur. Revenons-en à Voronka et à ce témoignage de son compatriote, Eugène Ionesco, exilé en France comme lui. Voici ce que disait Ionesco. Ce qui le caractérisait, entre autres, c'était la politesse. Une politesse extrême, une politesse qui paraissait excessive, pas naturelle, et qui pourtant était son naturel même. Il écrivait énormément, il publiait tout, il nous lisait ses poèmes, il avait trop d'éditeurs. Comment va-t-on pouvoir réunir tous ses poèmes et tous ses contes? Son œuvre est innombrable. Il écrivait comme il parlait. Parler en poésie, c'était son parler quotidien, et pour lui, le quotidien était à chaque instant merveilleux, insolite, toujours renouvelé, présence. Je n'ai jamais vu quelqu'un vivre dans une telle plénitude, avec une telle intensité, avec une telle joie. Il était heureux, présent au monde et à la fois distrait. Nous l'avions invité une fois à déjeuner. Il est arrivé avec beaucoup, beaucoup de fleurs pour ma femme, et 1 kilo de cerises pour ma petite fille qui avait 10 mois. Comme les cerises auraient risqué de s'abîmer si on les avait gardées trop longtemps, c'est lui et nous qui finalement les avons mangées. Il faisait aux femmes des compliments extraordinaires, en quelque sorte justifiés. Il trouvait que chaque femme était belle. Ces compliments n'étaient pas faux. Ils illuminaient la femme à qui ces compliments étaient adressés, et nous la voyions belle à notre tour. Il faisait des cadeaux, un mouchoir, une rose, je ne sais quoi. On ne pouvait avec lui discuter jusqu'au bout d'un sujet. Il passait tout le temps à autre chose, car tout ce qu'il voyait l'émerveillait, et la merveille constante de vivre était plus importante que toutes les préoccupations que pouvaient avoir les gens. Il m'arrêtait au milieu d'une conversation quelconque, s'arrêtait de marcher et me montrait la rue, les maisons, les femmes qui passaient. « Comme c'est beau, » disait-il. « Te rends-tu compte comme c'est beau? Comme c'est étrange, tout cela. » Voilà le témoignage de Ionesco. Mais l'émerveillement dont il parle ici dissimule mal l'angoisse du poète, comme le souligne encore cet étrange testament qu'il a rédigé en 1936 et qui a tout d'une lettre d'adieu, d'un prélude au suicide. Comme si la destruction, si l'on peut dire, était désormais programmée. En voici le contenu qui ne manqua pas de bouleverser son épouse, Colomba. « Ceci est mon testament, fait aujourd'hui le 17 juillet 1936, en pleine conscience. Je demande que mon corps soit incinéré sans aucune cérémonie religieuse. Tous mes objets, ma montre en or, mes vêtements, doivent revenir à mon frère, Alexandru Marcus. » Je laisse à ma chère femme mes livres, mes manuscrits, et je lui demande de publier chez un éditeur français mon recueil de poèmes « La joie est pour l'homme ». Je regrette de n'avoir rien à laisser à ma chère sœur qui, avec ma femme et mon frère, sont les seuls êtres que j'aime profondément. Je vous embrasse tous une dernière fois. Hilary Voronka. Voici justement « La joie est pour l'homme », poème éponyme du recueil qui paraît la même année que la poésie commune, en 1936. pur en ma demeure quand sa neige un nuage. Vous me suivez, mes murs, comme des lévriers. Je me hâte vers ces chasses de fumée. N'est-ce pas sur la route la poudre blanche de la nuit? Et au bout du regard, la mer, comme une plus grande puissance de l'œil qui remplace la vue? Omniscient, j'appelle les vaisseaux. Et vous, orage, objet comme des mots dans la voix familière. Ici et néanmoins ailleurs, mémoire comme la lune vers laquelle montait la marée d'une voile, joie substantielle où le lointain, le proche se confondent. Plus pur en ma demeure, et je demande où est ma vie? Plus là entre ces choses et mon contour qui m'échappe comme l'arôme qui hésite aux limites d'une fleur. Est-elle mienne, cette main qui agite un mouchoir? Et cette face en repos après le travail, comme une lampe qui s'allume? Et celui-là qui guette le matin comme la fuite d'un lièvre? Et le printemps qui s'arrête aux portes de la ville? Et celui-là qui, affectueux, écoute un arbre et le parler de sa sève? Et ma vie, et le retour qui te redonne à ta forme comme une mer qui se déploie dans un golfe amoureuse d'elle-même. Plus pure en ma demeure quand sa voix un écho. Ô bête bienheureuse, ô souffles apaisés à travers le poème, et celui qui enfonce son visage en la source et s'écrie « La joie est pour l'homme », et celui dont le cœur s'emplit de bonté et qui dit du bien de toute chose. Mirage, comme un vent qui apporte un parfum. Je n'ai été nulle part, mais je suis dans tout. Et ce jour qui remue comme une boue en moi, et ce mot comme le talon du nageur où s'enroulent des algues, non pas l'éclat, mais la clarté cheminante de l'aurore. Vous êtes vivant en moi. Et je sais le lieu et le temps de chaque parole comme un orbe au milieu de laquelle l'objet qu'elle désigne rayonne comme un astre. Plus pur en ma demeure quand sa mère une écume. Où est ma vie? Chaque chose m'enlève et me rend à moi-même.
Thank you.
C'était un morceau de musique klezmer, musique juive traditionnelle, et celui-là appartient au répertoire juif roumain. Le violoniste Itzhak Perlman était accompagné des quatre musiciens du groupe Brave Old World. En 1937, paraît Paternoster, et le poème que vous allez entendre et qui appartient à ce recueil se termine effectivement par un Notre Père revu et corrigé par Hilary Voronka. La rue sous ma fenêtre comme les autres jours, et les vitres sont pleines des images qu'elles ont ramenées de leur vol au-dessus de la ville. On voit le ciel avec les nuages et les fumées des usines. On voit des femmes si semblables aux écumes sur les plages, et des enfants avec des beaux jouets dans un jardin riche, et d'autres enfants avec des jouets pauvres dans une cour. Et tant d'images que mes yeux survolent comme des vitres. Le jour s'embue sous mon souffle comme un miroir. Est-ce vous, homme, ces doux brouillards qui inondent ma chambre? Venez, approchez-vous, penchez-vous sur mon épaule, assistez à la naissance du poème. Est-ce vous que j'entends marcher dans l'escalier? C'est au troisième étage de cette maison ouvrière, au 12 de la rue Jonquois. Est-ce vous dans ce halètement d'un suave départ vers les ténèbres? Puisque les choses vont faire bientôt un grand voyage à travers la nuit, quelles sont donc les richesses du jour qu'elles doivent emporter? Quels éclats du matin, du midi, du crépuscule seront chargés sur les choses comme sur des navires pour cette secrète traversée? En silence, chaque objet prend le strict nécessaire de la lumière du jour. Et c'est vous, hommes, mes semblables, mes frères, que je reconnais innombrables autour de moi. Je sais bien, c'est vous qui faites craquer le plancher et le vieux bahut. Asseyez-vous partout, sans crainte, j'aime tant votre souffle de foule qui caresse ma face. Écoutez, nous chanterons ensemble la louange du jour, nous accueillerons le soir et les feux allumés, au-delà des vieux murs pour saluer la bonté. Ensemble, nous serons à espérer la gloire de l'homme, et nous dirons ensemble, ce soir et tous les soirs qui vont encore suivre, cette prière aux hommes, aux frères innombrables, nos frères, hommes qui êtes sur la terre, que vos noms soient sanctifiés, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Partageons désormais notre pain quotidien. Partageons désormais notre joie quotidienne. N'acceptons plus les offenses, car nous n'avons jamais offensé personne. Ne nous laissons plus succomber à l'angoisse, à la misère. Délivrons-nous nous-mêmes du mal. Ainsi soit-il. L'instabilité, l'insatisfaction permanente, dit Hilary Voronka, ont des répercussions sur le couple qu'il forme avec Colomba, un couple qui était au départ très fusionnel et qui est maintenant menacé d'éclatement. Voronka tombe amoureux d'une autre femme qu'il a rencontrée lors d'un séjour en Roumanie. Elle s'appelle Rovena, elle est musicienne, elle est jeune, belle, sensible, et Voronka retrouve en elle la passion qui le faisait jadis vibrer pour Colomba. C'est vraisemblablement cette passion qui lui inspire cette longue Ode à la femme, qui paraît en 1938 dans le recueil L'apprenti fantôme. Je vous en livre ici trois extraits. Ô femme, avec ton corps fait de pain et de sel, tu m'accueilles et ma main tremble en touchant ta main. C'est ainsi que sous l'eau tremble la main du pêcheur de perles. Oh, j'ai été longtemps comme un voyageur égaré, et soudain, ton visage me fut comme la lumière d'une fenêtre. C'est ainsi qu'une voix afflue vers l'oreille qui l'écoute. C'est ainsi que les rayons du soleil épars dans l'air se réunissent sous l'attraction d'une loupe et redeviennent chaleur brûlante, feu. Quel miracle es-tu donc, femme? Quelle étrange fusée illuminant les routes dans la nuit de la peur? phare qui fait signe de loin à l'âme en détresse, lierre frais, argile où la trace du pas est humide, terre et eau, feu et air en même temps. Tu me redonnes les cinq sens, comme une bague pour chacun des doigts de la main. Je te vois, je t'écoute, je te palpe, ma bouche est pleine de ton goût de mer, sables immenses, plages, naufrages, déserts ardents, sommets recouverts de neige, les forêts chantent en toi mieux que sur les cordes d'un orgue, les montagnes de la terre sont moins fécondes que celles de ton corps. Femme, quel gisement de métaux, quel puits de pétrole! Et les épaules où le savon de la lumière glisse, et le miroir magique du ventre où l'on lit l'avenir. Les cheveux sentent le vent et les broussailles, des chevauchées de villes chaotiques au fond des yeux, et douce, oh, plus douce que l'huile, la ligne des genoux. Parfois la sueur te baigne comme une timide auréole, et les mille parties qui te composent s'unissent suavement, sans heurts. Ô femme, ô univers, ô femme, ces vapeurs qui t'entourent quand tu t'élèves dans les airs, le monde qui est en toi se retrouve plus vaste, avec montagne, mer, humanité, saison, ô femme qui m'accueille et me touche l'épaule et me fait tressaillir au plus fort du sommeil, je suis là, je me réveille et tu es assistée des anges familiers. L'armoire où reposent tes robes comme de nobles orages, robe de voile pour tes frontières de fumée, robe d'étoffe pour ton corps d'aube, robe de velours pour tes maux de crépuscule, robe de soie pour l'éclat de tes midis, robe d'écume pour tes bras d'océan. La table que tes mains ont fleurie, le lit, les fauteuils, chaque objet te précise et aussi te rend vague, car tout, chose, maison, jardin, ville, montagne, astre, sont les instruments de l'orchestre immense dont toi, femme, tu es le chant. Après la rupture avec Hilary, Colomba aura une liaison qui durera jusqu'en 1952 avec un autre poète, encore peu connu à la fin des années 30, mais qui le deviendra ensuite, puisqu'il s'agit d'Eugène Guilvic, auquel j'ai consacré une émission il y a quelques années, mais j'ignorais alors qu'il avait eu cette liaison. Bien que trompé et blessé, Colomba ne songera jamais à divorcer. Elle restera liée à Hilary. Hilary restera l'homme de sa vie et après sa mort, elle veillera sur sa mémoire comme sur ses œuvres.
Thank you.
femme lointaine. Es-tu encore parmi les vivants? Comment ai-je donc pu te faire souffrir autrefois, toi dont les regards me couvraient d'habits somptueux pour cacher les haillons de ma méchanceté? J'étais auprès de toi, mais je regardais ailleurs. C'est ainsi que tu es devenue invisible. Quand je me suis aperçue que je marchais seule, c'était trop tard. Tu étais restée au bord d'une route. Mais étais-tu au fond de moi comme une cloche, enfouie dans l'eau et vibrant tout à coup? Et ton visage, montant de mes fièvres profondes, m'entourait comme l'arôme entoure la plante. Car soudain je me suis souvenue, sans savoir, comme une racine ignorant son propre goût amer. Ta tristesse a recouvert ma pensée et j'ai compris. Ta beauté, faite de bonté et d'amour. Ah, j'ai connu alors la faim et la soif. Non pas celle de la chair, une faim, une soif plus atroce. Mon âme se débattait dans la solitude, dans la sécheresse. Chevreuil tremblant qui n'eût mangé que dans ta main. Est-ce l'automne ou l'été autour de moi? Que m'apporte le jour et la nuit? Dans le brouillard, parmi les nuages, je ne suis que le signe, le cou tendu, attentif à surprendre ton faible appel. Épouse. Voilà ce qu'écrira Hilary Bronka quelques années après sa rupture avec Colomba. Et c'est un texte qui paraît dans un recueil intitulé « Les témoins » qui est publié en 1942. 1939, c'est la guerre et Bronka est affecté dans un régiment de marche stationné au camp du Larzac. Puis, une fois démobilisé en juin 40, il regagne Paris mais ne s'y attarde pas. Il part se réfugier à Marseille, où il compte des amis qui vont l'aider à trouver un logement et un travail. Les temps sont difficiles. Néanmoins, il écrit beaucoup, et c'est pendant cette période de l'occupation, entre 1940 et 1945, qu'il va produire pas moins de 6 romans. Il fréquente aussi l'équipe des Cahiers du Sud, une revue dans laquelle il publie des poèmes, et autour de laquelle gravitent de nombreux intellectuels venus se réfugier en zone libre. Mais la ville devient à un moment donné dangereuse pour les réfugiés, les juifs et les militants antifascistes. Et Bronka est les trois à la fois. C'est pourquoi il quitte Marseille pour se réfugier dans un village des Hautes-Alpes, non loin de Gap. Puis il part à nouveau pour rejoindre un autre village aux alentours de Rodez, dans l'Aveyron. Là, il est hébergé par un couple d'instituteurs d'une grande générosité qui l'entourent de leur affection et lui permettent ainsi de continuer à écrire. C'est un homme toujours de bonne humeur, séducteur, fraternel, mais derrière ses apparences, il y a un être usé, laminé par une existence précaire et une santé chancelante. L'espoir d'un monde meilleur qu'il animait avant la guerre a été terrassé par les méfaits de l'idéologie nazie. Voici deux textes écrits pendant les années de guerre, extraits de Poèmes inédits, un ouvrage qui sera publié en 1961, par Guy Chambellan. Août 1942. Je vous demande pardon, hommes qui combattez pour la liberté, vous qui tressez de vos sangs des fouets pour chasser l'envahisseur, je vous demande pardon d'être à l'abri dans une ferme. Les arbres et les bêtes sont heureux en cet été et j'écris ce poème près d'un champ de lavande dont le parfum monte et emplit ma tête, comme mon âme monte vers vous, homme qui combattez. Ce n'est pas de mon âme mais de mon corps que vous avez besoin, et ma plume devrait être arme à feu, mes paroles des balles, mes mains convalescentes devraient nouer des fils barbelés, mais j'écris ce poème. Hommes qui combattaient. Ceux qui foulent vos terres n'en veulent-ils pas à vos pensées? La boue de leur regard a recouvert le jour, c'est pour avoir le droit au pain et au poème que vous dressez vos poitrines, hommes qui combattaient. Ah, loin de vous, couverts de vos blessures, comme la source qui se trouble quand l'orage a éclaté au loin, ou comme un miroir où passe une lueur étrange, homme qui combattez, vivant de votre vie, mourant de vos morts, que ce poème soit faucon au poing du chasseur, qu'il soit aussi pigeon voyageur portant le message que l'homme est libre. Homme qui combattez. 1943. Ceux qui naissent en ce moment ignorent les mots des obus et des balles. Ils n'entendent les roues de la pluie qui broient leur père dans la boue. Le printemps, revenu au monde, s'effraie de le voir si vieux, plein de rides de sang. Les blessés ne laissent pas un pouce aux fleurs. Où déposer clartés et rires ? Le vent marche comme un aveugle, il cherche des épis de blé et ne trouve que baïonnette. La saison est comme un convoi qui hésite à planter ses tentes. En haut tournent les corbeaux comme aux jours sombres de l'automne. Déjà, le char de la verdure rebrousse chemin, le soleil se couvre la face comme un hôte dans la maison mortuaire. Mais près des hanches de velours de leur mère, où se prolonge l'étang paisible de l'absence, les voici refusant le monde et serrant dans leurs poings frêles l'amour, la paix de l'avant-vie, où grandissent avec eux sur la terre ceux qui naissent en ce moment. En octobre 1944, Voronka prend congé de ses amis avéronnais et remonte à Paris, où il trouve un emploi comme responsable des émissions en langue roumaine de la radiodiffusion française. Il retrouve alors Colomba, mais les tensions entre eux subsistent et Voronka est accaparé par sa passion pour Rovena, la jeune violoniste roumaine, qui semble à cette époque être son dernier rempart contre le désespoir. En effet, même s'il n'en laisse rien paraître, il arrive Voronka et hanté par cette période barbare qu'il vient de traverser et dont chaque jour qui passe désormais fournit des détails plus horribles les uns que les autres. L'évocation de la mort est de plus en plus présente dans ses poèmes, comme dans celui-ci qu'il a intitulé « L'étrange fleur » et qui est tiré du recueil « Les témoins ». L'agave, dit-on, fleurit tous les 100 ans. Notre floraison à nous, c'est la mort. Il faut se pencher avec amour, avec soin, sur cette fleur pâle de notre corps. Chacun de nous est un jardinier et la plante qu'il doit préserver jour et nuit avec son parfum de tilleul et de menthe, c'est sa propre mort, qui est la fleur et le fruit. Il faut que tout se passe sans heurts, en silence, sans crier, sans froncer les sourcils, sans avoir l'air de reconnaître cette présence qui tisse autour de nous ses vaporeux fils. Jusqu'à ce qu'enfin la fleur s'épanouisse. Cet éclat, ce pollen violent, ce vacarme de l'air où s'unissent soudain le dehors et le dedans. Il y en a qui sont comme une terre aride et le grain de la mort lutte en vain. Leur face vieillit trop vite, comme feuilles se dessèchent leurs mains. Ils s'en vont dans les jeux, dans les foires. Ils clament l'orgueil tout autour, plus que la nuit leur bouche est noire. Sans l'étoile d'un mot d'amour. Jamais, au milieu de leurs fêtes, dans leurs étoffes, dans leurs ors, ils ne pensent à la fleur secrète que défait en leurs veines la mort. ceux qui ont su attendre la gloire qu'apporte enfin l'étrange floraison, et dont les lèvres de chair ont su boire un impalpable vin qu'ignore la raison, ces purs horticulteurs, ces hommes sages, la mort en eux monte de toutes parts, et l'âme apparaît sur leur beau visage, comme sur l'eau, un nénuphar. Vous venez d'entendre une étude pour piano du compositeur Gheorghe Ligeti, citoyen roumain, mais de langue et de culture hongroise. En décembre 1945, Voronka retourne en Roumanie, un pays dévasté par la guerre et par les luttes fratricides, un pays où les intellectuels veulent croire à un avenir meilleur avec un parti communiste qui ne tardera pas quelques années plus tard à établir une dictature stalinienne. Mais ce qui anime Voronka, plus que le sort de son pays, c'est sa passion amoureuse pour Rowena, la jeune femme qui va l'accompagner en France en février 1946. Mais la vie de couple ne va pas prendre la tournure qu'espérait Voronka. Et dès le mois de mars de cette année 1946, leur rupture est imminente. Au soir du 4 avril 1946, Ilari Voronka s'enferme dans la cuisine de son appartement, calfeutre portes et fenêtres, absorbe un tube de somnifère, boit de l'alcool et arrache le tuyau de gaz. Dans le livre qu'il lui a consacré, Voronka, le poète intégral, Christophe Dauphin affirme que, même si elle a pu le précipiter, la rupture avec Rowena n'est pas la cause essentielle du suicide, qui est davantage à ses yeux, je le cite, une liberté, la liberté de tirer sa révérence alors que tout semble lui échapper irrémédiablement et que nulle autre issue ne semble se présenter. Le dernier recueil de Voronka s'appelle « Contre solitude » et il paraîtra quelques mois après sa mort. C'est une œuvre testamentaire dans laquelle se côtoient espoir et désespoir. L'espoir, c'est surtout celui que suscite en lui son amour pour Rowena et qui lui inspire plusieurs des poèmes de ce recueil, notamment celui-ci. Je voudrais cesser d'être un et devenir une foule, une armée dont ton visage serait la bannière flottant au vent et qu'une ferveur sans borne pousserait vers le triomphe. Je voudrais être un navire cahoté entre les pierres des tempêtes, et toi, l'île qui surgit, ensoleillée. Quelle est la partie de moi-même qui te rejoint la première? Car j'accours avec tant de hâte vers toi que je me défais comme les pétales d'une fleur emportée par l'orage. Déchiré, écartelé, en pièces loin de toi, tout s'ordonne et retrouve l'unité à ton approche. Je pourrais être celui qui est assis au milieu d'un campement et qui écoute, rêveur, les rires, les chuchotements. Et soudain, lorsqu'il commence à raconter, tous se taisent, car il parle d'une femme incomparable, torche ou météore ou foudre. Ce n'est qu'à cet âge où l'homme est en la plénitude de sa force que tu pouvais m'accueillir. L'enfant, l'homme jeune, le désœuvré. Celui qui hésite, celui qui part avec un visage et revient avec un autre, celui qui veut acheter une chose et qu'une autre chose attire, ceux-là ne sont pas encore préparés à te connaître. Mais l'homme qui bientôt aura 40 ans et qui, en te voyant, sait que rien ne pourra t'en éloigner, l'homme qui, en t'apercevant, s'exclame « Voici ma destinée », celui-là est digne de toi. À genoux, en larmes, il te laisse essuyer sur sa face les traits qui lui sont étrangers et les donner à lui-même et au monde. Pour terminer, Deux textes qui expriment chacun à sa façon le rapport de proximité qu'entretient Voronka avec la mort. Le premier identifie la mort à un promeneur solitaire qui se plairait à imaginer la vie en considérant chaque être qu'elle arrache au monde comme le morceau unique d'un tout qu'elle chercherait à reconstituer. Le second est un éloge du silence, celui qui entoure la pensée, qui précède le mot, qui met du blanc entre les lignes du poème et qui est aussi le silence séparant et unissant la vie et la mort. Pareil à un promeneur qui, au déclin de sa vie, sur la plage presque déserte, quand les fastes de la saison se meurent au loin, soulève un coquillage et écoute la gloire de la mer et ses naufrages secrets, de temps en temps, la mort, promeneur solitaire, drapé dans son manteau de nuages et de cendres, prend l'un de nous entre ses mains et longuement écoute la vie qui chante en nous comme un coquillage. Elle imagine alors des terrasses, des parcs, un couple qui éclaire de son bonheur l'allée, le soir comme une femme échevelée, les arbres, les hommes riant à la table des jeux du crépuscule. Tour à tour, la mort nous ramasse et se penche vers le bourdonnement de nos âmes lointaines. Nous sommes les abeilles qui reviennent chargées des pollens de la vie dans la mortelle ruche. Si l'un de nous pouvait lui dire tous les âges, et l'espoir, et la résignation, et l'amour, la vengeance, si un seul pouvait évoquer en une fois tous les éclats et les ténèbres de la vie, la mort le garderait sans appeler les autres. Mais chacun lui apporte un écho trop distant. La mort nous prend tous comme les morceaux épars d'une lettre qu'elle veut réunir et lire. De quoi lui parlent donc ces innombrables bouches ? L'une nomme le ciel, l'autre l'étang, l'autre l'automne. Est-ce la pierre ou l'eau, la gloire ou bien la femme ? La vie a mille formes qui déroutent la mort. C'est un regret ou l'ombre d'un vol qui se délie avec bonté. La mort regarde jeux et phares, et comme une neige attardée sur les cimes, un sourire apparaît sur sa face sévère. Éloge du silence. Loué sois-tu, silence, qui entoure la pensée. Le mot ne vient qu'après. Mais entre lui et la pensée qu'il exprime, il y a cette bande suave de silence, comme un jardin entre la maison et la haie vive. C'est ainsi que le nageur, avant de plonger dans l'eau, emplit ses poumons et retient son souffle. C'est ainsi que l'idée, qui était temps, devient parole, qui est espace. C'est ainsi qu'entre poème et vers se situe le blanc. Et peut-être qu'autour de la vie même, il y a ce silence qui la sépare et l'unit à la mort. Cette bouche d'air entre le corps et le vêtement. Car si la vie est la pensée, la mort est le contour qui l'exprime. Mais si l'oreille entend le mot, sans rien savoir de la muette musique enfermée en ses murs, de la mort, chacun sait le glorieux silence, sans deviner la forme où celui-ci est clos. C'est sur cette seconde étude pour piano, intitulée « Arc-en-ciel », que s'achève cet ensemble de deux émissions consacrées à Hilary Voronka, dont je vous livre ce dernier texte, extrait de poème inédit. Épitaphe. On m'a libérée autrefois dans le monde vaste pour que j'y sois infime. On m'a enfermée maintenant dans cette tombe infime pour que j'y sois vaste. Notre prochain rendez-vous sera le jeudi 19 novembre. D'ici là, portez-vous bien. Ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.